Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravili Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Alors Rav Lemel, on avance dans l'étude de notre paracha, ces textes qu'on lit dans nos communautés chaque semaine. Et donc bon, bah, ce soir, on en a une nouvelle et c'est Toldot. Toldot parle de énormément de choses. On est dans toutes ces très belles parachutes de Bereshit, et donc très très belles histoires. Et là, c'est la naissance de Yaakov et Esav. Je crois que beaucoup de gens vont se souvenir que Yaakov naît en tenant le talon de avec plein d'enseignements, mais vous voulez nous poser la question, comment ça se fait qu'ils sont nés en même temps pour terminer dans un antagonisme qui donne l'impression d'être éternel. Alors pourquoi cette naissance en même temps et dans cet antagonisme?
Alors c'est vrai qu'on a ici donc l'émergence donc de ce qui va être quelque chose de capital, puisqu'on a maintenant l'arrivée de ce qui va faire traverser, j'ai presque envie de dire, l'histoire du peuple d'Israël. Donc on avait déjà Ishmaël qui était né, et puis là maintenant on a Esav, mais Esav qui naît avec Yaakov. C'est-à-dire qu'on a vraiment ici le face-à-face par absolu de deux modèles, de deux systèmes qui tout au long de l'histoire vont se confronter et qui quelque part représentent au fond un des enjeux majeurs de l'histoire du peuple juif à l'intérieur de l'univers. En effet, Yaakov va être défini tout de suite comme étant Ishtam Yoshev Walim, c'est-à-dire cet homme, la traduction je ne l'aime pas trop, mais il n'y en a pas d'autre, Tam, intègre, simple. Alors généralement on dit simple, on voit le simplet, alors que ce n'est pas du tout ça. Yaakov en tout cas qui est le Tam, c'est-à-dire dans une forme d'intégrité, Yoshev Walim, qui est installé dans ce qu'on appelle la tente de l'étude, et puis Esav qui est Ishsadeh, l'homme des champs, celui qui est à l'extérieur, celui qui est là pour faire émerger des choses, celui qui est là. Et au fond, on va voir que les deux sont dépositaires d'un énorme potentiel. La difficulté, c'est que Esav va mal l'utiliser, mais vous le savez très bien, il va y avoir un lien particulier entre Esav et son père, entre Esav et Yitzhak, parce que justement, Yitzhak voit parfaitement que chez Esav, il y a un combat qui va s'engager, un combat contre lui-même, mais avec une possibilité de faire advenir quelque chose d'extrêmement grand, mais Esav ne va pas réussir. Et qu'est-ce qui va au fond se passer ici? Vous savez que le texte nous dit que lorsque Esav va mourir, donc il vient naître, mais moi je le fais déjà mourir, quand Esav va mourir, sa tête va rouler, va être enterrée dans le caveau des patriarches. Il va mourir de manière assez surprenante, décapité par Hushim ben Dan. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de cette histoire, et sa tête roule dans le caveau des patriarches, disent nos maîtres. Pourquoi? Parce qu'il a adhéré intellectuellement à la vision que propose son père. Il est d'accord, il est pour, mais quelque part, il n'arrive pas à la retraduire dans le monde du réel. C'est-à-dire, c'est au fond l'émergence d'une société qui va avoir une certaine forme de philosophie, une certaine pensée, un certain regard, voire même une éthique, mais une éthique au niveau des mots, mais qui aura une difficulté folle à la faire exister de manière ultra concrète dans le quotidien. Alors que justement, on a un Yaakov de l'autre côté qui va être intéressé par savoir comment est-ce qu'on traduit cette pensée, comment on traduit cette éthique, comment on traduit cette vision du monde de manière ultra concrète. Et c'est pas pour rien qu'on l'appelle Yaakov, puisque Yaakov c'est Ekev, Ekev c'est le talon, c'est cette partie du corps qui touche le sol, cette partie qui écrase le sol, c'est-à-dire c'est la partie du corps qui est en lien avec la réalité terrestre, avec la réalité physique du monde. Et c'est intéressant parce que on voit souvent Yaakov comme étant le penseur, celui qui réfléchit, celui qui étudie, et pas du tout. Son nom nous montre bien que son enjeu, c'est d'être en contact avec la réalité du monde pour que cette pensée, cette vision, trouve son domaine d'application à l'intérieur du quotidien. Et donc, évidemment, la question, elle va être de savoir, mais pourquoi un antagonisme au fond ? Parce que, à la limite, on a ici deux frères, deux visions du monde, mais on voit qu'il y a un antagonisme qui se crée extrêmement vite. Et d'ailleurs, on le verra par la suite avec ce verset qui nous dit que « Ul om mil om yemat », c'est-à-dire que lorsque Israël aura une place, je veux dire, dominante dans l'histoire, eh bien Esav l'aura moins, et le contraire. Comme si, au fond, il n'y avait pas de possibilité à ce qu'ils se rejoignent, ou en tout cas qu'ils coexistent. Et on a ici une idée, au fond, capitale, c'est que, eh bien, la Torah est en train de nous apprendre que lorsque vous êtes confronté à celui que vous aurez pu être et que vous avez décidé de ne pas devenir, eh bien, la présence de l'autre est insupportable. Et c'est ça, au fond, ce qui va se jouer à l'intérieur de cette relation. C'est-à-dire que Yaakov, le peuple d'Israël, sa présence pose un problème parce qu'elle révèle à Esav ce qu'il aurait pu être. Si Esav n'aurait jamais pu devenir ce qu'est Yaakov, parce qu'il n'en a pas les possibilités, parce qu'il n'en a pas les capacités, bon, ben voilà, Yaakov est là, de toute façon, circuler, ça ne fait pas partie de mon monde des possibles. Mais quand je fais partie de ce monde des possibles, quand j'aurais pu devenir ce que Yaakov est, quand j'aurais pu incarner ses valeurs et que je vois que, eh bien, c'est lui qui les représente, alors il y a quelque chose d'insupportable. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dès le début, la Torah nous annonce cet antagonisme, parce que c'est au fond comme une forme d'élément immuable dans l'histoire. Dès le moment où, à travers ce que vous êtes, vous rappelez à l'autre ce qu'il aurait pu devenir, alors vous devenez quelqu'un d'insupportable, sans faire un raccourci, on pourrait dire que c'est un petit peu aussi le problème qu'aujourd'hui a Israël par rapport aux nations, parce que Israël rappelle aux nations ce qu'elles peuvent être au niveau d'une éthique, au niveau d'une manière d'appréhender les défis, au niveau de la résilience, au niveau de la vigilance par rapport même à l'univers de la guerre. Enfin, c'est pour ça qu'on est tellement content lorsque, enfin, il n'incarne plus totalement ses valeurs, parce qu'il est moins interpellant. Mais c'est un petit peu ça ce qui est en train de se passer. Et alors, Esav, donc, ben, il est là. Il est là et on va voir qu'il signifie à Yaakov de manière très claire qu'il est conscient qu'il y a une dimension élevée dans la vision qu'a Yaakov de l'existence, mais qu'il dit qu'il va mourir et que de toute façon, le fait de savoir qu'il peut y avoir un futur, qu'il peut y avoir une vie après la vie n'est pas quelque chose de suffisamment fort dans son esprit pour l'amener à donner un autre tournant à son existence. Et donc, on est dans cette dimension très paradoxale de savoir, de conscience. Vous savez, c'est comme ces gens qui disent « Non, mais on sait qu'au fond, vous avez raison. » Vous voyez même parfois dans le peuple juif, ils disent « Non, en vérité, je trouve que c'est très bien la religion. Non, mais vous avez raison, il faut, c'est fondamental. » Mais alors ? Et puis là, ça s'arrête. Mais alors, et c'est là où, au fond, le problème existe, le peuple d'Israël va dire alors à Esav, et Esav n'a pas envie de l'entendre. Et donc, c'est la raison pour laquelle on va retrouver après eh bien, cette sin'a, cette haine profonde que Esav va avoir vis-à-vis de Yaakov, qui, de par son existence, le remet en cause, même s'il se contente d'être là où il se trouve. Et d'ailleurs, on va le voir dans l'histoire, puisque, au fond, toute la problématique de l'antisémitisme tout au long de l'histoire, c'est pas tant que le peuple juif va agir de manière problématique et qui va obliger donc les nations qui sont autour de nous à réagir par rapport à un peuple qui poserait problème, qui ferait... Non, pas du tout. L'idée même de sa présence est difficile parce qu'elle remet en cause. Et donc, elle doit disparaître. Ce qui est intéressant, c'est que Esav préfigure une société dans laquelle, eh bien, dans la mesure où personne n'est là pour me rappeler ce que j'aurais pu devenir, alors je peux le mettre totalement de côté. Et à partir de là, eh bien, on est dans ce que j'appellerais les racines de l'antisémitisme et qui vont se retrouver tout au long de l'histoire. On sait que Hitler avait clairement dit ça. Il avait dit que le peuple d'Israël a infligé à l'humanité deux mutilations, celle du corps et celle de l'esprit. Celle du corps à travers la circoncision, celle de l'esprit à travers la notion de conscience morale, et que sa lutte n'était que contre cela. Mais qu'est-ce qu'il disait au fond, ce descendant de Esav ? Eh bien, c'est que ce que représentent ces deux notions, eh bien, il faut absolument faire disparaître le peuple qui les véhicule. Mais les notions restent. Mais dans la mesure où plus personne ne les véhicule, alors on peut les évacuer plus facilement. La notion de la circoncision, c'est quoi ? C'est vivre dans cette conscience du divin à chaque moment de notre vie. La notion de conscience morale, c'est d'être capable de s'interroger sur le bien fondé de nos actions, si véritablement on est fier de soi qu'on agit de telle ou telle manière. Alors, vous savez que c'est un petit peu ça tout l'enjeu du juif, de s'interroger, de se dire « mais est-ce qu'au fond j'ai bien agi ? Est-ce qu'au fond c'est éthique ? Est-ce qu'au fond ça se fait ?» Toute la notion de tchouva, de retour, la notion de demander pardon à d'autres, enfin tout ça provient de la présence de cette dimension chez nous. Et Esav n'en veut pas. Et donc Esav va tout au long de l'histoire la faire disparaître. Voilà un petit peu, en tout cas, à travers cette paracha, ce que j'ai envie de dire, les racines de l'antisémitisme, ce qui ont été souvent, on a souvent tenté de l'expliquer de mille et une manières, riche, pauvre, ce que vous voulez. Alors on voit très bien que ce n'est absolument pas de ça dont il s'agit, puisque quelles que soient les postures qu'a eu le peuple d'Israël dans l'histoire, chaque fois, il a dérangé, chaque fois, il a posé problème, chaque fois, il a fallu s'opposer à lui. Et j'ai presque envie de dire que, entre guillemets, non pas l'antisémitisme rassure, mais en tout cas l'antisémitisme nous rappelle ce que nous représentons, nous rappelle ce que nous véhiculons, et quelque part nous propose de l'intégrer, de le vivre encore mieux et de manière plus authentique et plus forte. C'est en stade d'ailleurs où on doit être capable de récupérer, j'ai envie de dire, cette dimension-là, d'en faire quelque chose, d'en faire le support d'une élévation, et à partir de cela, eh bien, faire avancer l'histoire tout simplement.
Rav Elie Lemel, je pensais à cette phrase de Jean-Paul Sartre que vous connaissez en vous écoutant. Disait l'antisémitisme, c'est pas une opinion, c'est une passion, c'est un sentiment. Et je vous entendais avec beaucoup de résonance ce que vous venez de dire à l'instant. Rav Elie Lemel, je vous remercie et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton qui est à Jérusalem. Bonsoir Rav Mordechai et Shavua Tov.
Eh oui, Shavua Tov mon cher Bernard, Shavua Tov pour tout le monde, Bezrat Hashem, des bonnes nouvelles pour cette semaine, d'excellentes nouvelles pour cette semaine.
Rav Mordechai, alors notre paracha nous parle d'un chidour en fait. On a marié deux jeunes personnes, c'est Rivka et Yitzhak, mais ils ne se sont jamais vus. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un chidour pareil ? Comment est-ce qu'on peut... Et en plus, bien sûr, que toutes ces histoires que nous raconte la Torah, c'est pour nous enseigner quelque chose, pour que nous on s'inspire de ça. Alors, comment on peut organiser une rencontre entre deux personnes qui ne se sont jamais vues ?
Alors, on va s'intéresser, non pas au chidour du siècle, c'est pas la rencontre en vue du mariage du siècle, ni celle du millénaire, c'est celle des quatre derniers millénaires. D'accord ? Alors, c'est un chidour qui est absolument extraordinaire, parce qu'en fait, c'est un chidour dont on ne peut pas apprendre grand-chose tel qu'il est mené, puisque Yitzhak va se marier avec Rivka sans même l'avoir rencontré, et Rivka se voit emmener de sa maison vers son futur mari sans même l'avoir jamais rencontré. Donc qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un chidour comme celui-là ? Alors, pour répondre à cette question, il faut comprendre ici ce qui va se passer pendant le chidour. Vous savez que Eliezer va faire un test sur le chesed, sur la bonté donc de Rivka. Donc il va dire à Hachem, il va dire, voilà, écoute, si la personne qui sort ici, elle me propose de boire, elle propose de nourrir mes chameaux, en un mot, elle se propose pour faire du chesed, pour faire un acte de bonté, un acte de générosité, je saurais que c'est celle que tu as prévue donc pour Yitzhak. Et là, effectivement, c'est ce qui va se passer. Mais est-ce que ça aurait suffi à soi seul pour décider que Rivka puisse être la femme de Yitzhak ? Or non. Parce qu'il y a un deuxième test, qui est le test sur la Chorma. Il va lui poser une série de questions, et elle répondra dans l'ordre. Alors, bon, Rachid dit, c'est donc bien la preuve qu'elle était Chachama, qu'elle était sage, qu'elle était intelligente. A priori, on ne voit pas trop le rapport. Et il n'a pas interrogé sur des connaissances profondes, il n'a pas demandé de révéler une sagesse ou une connaissance profonde, il a simplement demandé de répondre à des questions simples, d'où elle vient, qui elle est, qui sont ses parents, et est-ce qu'on peut aller venir chez elle, donc se reposer, etc. En vérité, ce que la Torah vient nous enseigner ici, c'est que un chesed qui n'est pas un chesed, qui est fait bechorma, avec sagesse, avec intelligence, c'est pas un vrai chesed. Parce qu'il y a un personnage, dans les personnages qu'on est en train de fréquenter, en quelque sorte, dans les sections hebdomadaires, qui, lui, a du chesed, mais est littéralement infréquentable. C'est Ishmael. Ishmael, il vient de chez Avraham Avinu. Il a du chesed. Mais le Mirtav Meliaour, Rav Eliyahu Dessler, nous dit, ce chesed est un chesed de znout. C'est un chesed qui, en fait, consiste à finalement se répandre chez les autres, mais finalement à ne rechercher finalement que son propre profit, une espèce de narcissisme déguisé en chesed. Et donc c'est pas du vrai chesed. Le vrai chesed ici, c'est celui de Rivka. C'est-à-dire que non seulement elle est chachama, elle est sage, elle et en même temps elle a du chesed, c'est-à-dire qu'elle comprend le besoin de l'autre, mais elle comprend aussi comment satisfaire le besoin de l'autre, et elle cherche aussi comment est-ce que ce qu'elle accomplit peut réellement apporter du bien donc à la personne à laquelle elle est en train de faire du chesed. Et donc il y a ici un premier test. Vous voyez, de ce chidour là, on peut déjà apprendre ça. On a l'habitude de dire que dans le chidour, il faut éviter de se concentrer sur le physique. Le physique, ça se détériore assez rapidement. Et en fait, ce qu'on doit apprendre à aimer dans le mariage, c'est le personnage intérieur de la personne qu'on a épousée. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant le physique n'a aucune espèce d'importance? C'est intéressant parce que, on le dit tous les vendredis soirs, Sheker Achen, le Chen, la grâce, c'est un Sheker, c'est un mensonge. Ve'evel Ayofi, et ça n'est que pure vanité que la beauté. Isha Yirat Hashem, une femme qui craint Dieu, Ititala, elle sera louangée. Alors, le Midrash dit sur quoi elle va être louangée, cette femme? Elle va être louangée sur sa beauté, parce qu'elle a la crainte du ciel, parce qu'elle a de bonnes midotes, parce qu'elle a des bons traits de caractère. Elle sera louangée pour sa beauté. Comme si, en quelque sorte, des pensées positives, une envie profonde de faire le bien autour de soi, pouvaient influer sur le visage et le physique d'un individu et lui donner un visage et un physique agréable. Et effectivement, on voit que toutes sortes de gens, qui ne sont pas forcément des gens qui répondent à tous les canons de la beauté, sont des gens qui sont beaux, tout simplement parce qu'ils ont des belles pensées, parce qu'ils ont des beaux comportements. Là, on arrive finalement au cœur de ce qu'on va apprendre de ce premier chidour. Le cœur de ce premier chidour, c'est qu'en fait, Yitzhak et Rivka sont des prophètes. Effectivement, le fait qu'ils ne se soient pas vus, c'est une chose qui finalement ne nous intéresse pas, d'accord, fondamentalement, parce que nous, on n'est pas des prophètes, et puis de toute façon, le Shulchan Aruch, la loi, elle est très claire, c'est qu'on ne peut pas se marier avec une femme sans l'avoir rencontrée, et la femme ne peut pas se marier avec un monsieur sans l'avoir rencontrée. Mais où est le cœur de cette histoire-là? C'est qu'en fait, Rivka, par son chesed, par sa bonté, elle est capable de comprendre le besoin de l'autre. Et par sa chorma, elle est capable de s'assidier un certain nombre de limites dans sa relation à l'autre, et en même temps, elle est capable de se donner complètement dans le chesed. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire, Rivka? Qu'est-ce qu'elle va apprendre comme de ce chidour? Qu'est-ce qu'elle va révéler plutôt? Elle va révéler quelque chose qui s'appelle le da'at. Le da'at, vous savez qu'en hébreu, c'est pas seulement l'intelligence ou le discernement, c'est le lien. Par exemple, Vayeda et Tishto, il a eu une relation charnelle avec sa femme, ça s'appelle aussi la da'at, c'est faire le lien. Par exemple, quelqu'un qui a étudié, auquel on présente une situation nécessitant donc une conclusion du point de vue de l'Halakha, une décision du point de vue de l'Halakha, on dit qu'il a du da'at Torah. Il a du da'at Torah, c'est-à-dire qu'il sait faire le lien entre la Torah qu'il a apprise et la réalité qu'on lui présente pour donner une décision. Ce qu'on appelle avoir du da'at Torah. Les grands du peuple juif, ils ont le da'at Torah. Ils ont cette capacité de faire le lien. En vérité, on va voir que Rivka, c'est quelqu'un qui, par son chesed et sa chorma, va être capable d'avoir du da'at, de faire le lien. Par exemple, quand elle est enceinte, elle finit par être enceinte. Elle n'arrive plus à faire le lien, elle ne comprend pas. Elle a deux enfants. Quand elle passe devant un Beit HaMidrash, un des enfants veut sortir. Quand elle passe devant une maison d'Avodah Zara, c'est l'autre qui veut sortir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Là, elle n'a plus de date, elle n'a plus de capacité de faire le lien entre les événements. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va t'élire l'hydroge et Hachem. On va voir dans la parasha la semaine prochaine, elle va aller demander à Hachem. Qu'est-ce qui se passe? Elle va aller voir un rave pour l'aider à comprendre la situation. Par contre, quand il va s'agir aussi de donner une bracha, de donner une bénédiction et de choisir si on la donne à Yaakov ou si on la donne à Esav, elle va être capable de dire c'est pas Esav qu'il faut la donner, il faut la donner à Yaakov. Donc en vérité, tout ce chesed et tout être chorma va lui permettre de voir au-delà de l'écran de la matière et de donner en quelque sorte un sens là où finalement le sens semble être complètement perdu. Et là où elle a du mal à le trouver, bah, elle va se faire aider. Et là où elle pense qu'elle est en position de dire des choses intelligentes, elle va faire entendre sa voix. On a une qualité extraordinaire. Quand on dit que c'est la chorma des femmes qui construit une maison, on a avec Rivka ici une illustration absolument extraordinaire. C'est le foyer juif, c'est la maison, c'est la femme juive dont on parle. Ce n'est pas une femme qui est obnubilée par son maquillage, par son extérieur, par sa beauté extérieure. Elle est tout simplement dans la construction, dans le travail, pour elle, et donc aussi pour sa maison. Voilà, alors donc on a ici un plan absolument extraordinaire. Et à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent et qui vont se marier, commencez par vous intéresser à l'intériorité, à l'intérieur de vos interlocutrices et de vos interlocuteurs. Les midotes d'abord, les traits de caractère, la crainte du ciel. Est-ce que c'est une personne qui est empathique? Est-ce une personne qui s'intéresse à l'autre? Une personne qui a une capacité d'ouverture d'esprit, d'ouverture intellectuelle, d'ouverture du cœur? C'est des qualités fondamentales et c'est des qualités qui ne s'abîment jamais. Et je vous le garantis, je suis ni prophète ni fils de prophète, mais je peux vous le dire, puisque la Torah nous le dit, c'est une personne qui a ses qualités, elle est belle, et son visage sera beau, ses traits du visage seront beaux, et c'est une personne qui reflètera beaucoup de beauté intérieure, et donc aussi beaucoup de beauté plastique, comme le disent les Chachamim. Finalement, une femme qui a ce genre de qualité, mais également un homme qui a ce genre de qualité, mais en l'occurrence, la Torah nous le dit pour une femme, elle sera louangée pour sa beauté. Et on a l'impression que c'est paradoxal, pas du tout, parce qu'en fait, la beauté, c'est une harmonie. Il y a une harmonie entre le physique et le travail que l'individu fait à l'intérieur de lui-même.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay, Shavua Tov.
Bonsoir Shavua Tov.
Rav Gay, alors vous voulez intervenir ce soir sur Rabbi Yehuda Hanassi. Alors évidemment, on se demande pourquoi. Rabbi Yehuda Hanassi, c'est le grand Tana qui a rédigé la Mishnah, qui a compilé, il y a une discussion. D'ailleurs, c'est vous, nous direz ce que vous en pensez. On dit qu'il est la réincarnation de Yaakov Avinu. Alors, on vous écoute, on attend de savoir pourquoi et qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique.
Alors, il y a un indice dans la paracha de cette semaine, dans Rashi, où nous voyons Rivka qui est très perturbée parce qu'elle voit que ses deux enfants, ses deux fœtus en fait, elle ne sait pas au début qu'il y en a deux, elle pense qu'il n'y en a qu'un seul, elle ne comprend pas pourquoi cet futur enfant, ce fœtus, veut sortir lorsqu'elle passe près d'un temple idolâtrie et le même veut sortir. Lorsqu'elle passe près d'un Beth Amidrash, elle dit que ce n'est pas possible, il est schizophrène, un jour il veut l'idolâtrer, un jour il veut le Beth Amidrash, bon, c'est les mots de Rashi. Puis après, effectivement, on lui répond, il y en a deux, mais on lui dit surtout une phrase, « Shnei Geim Bevitner ». Donc il y a Shnei Goyim, il y a deux peuples, mais aussi Shnei Geim, deux notables, deux personnages importants dans ton ventre, et on lui parle, enfin Rashi nous rapporte ce passage de la Gemara. C'est qu'en fait, on nous parle de Rabbi et de Antoninus. Alors, Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, hein, c'est l'écrivain, celui qui est l'auteur de la Mishnah. La Mishnah, je vous rappelle, c'est quand même la base, le fondement de la Torah orale. La Torah orale, en résumé, c'est la Mishnah. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'auteur de cette magnifique œuvre. Je vous rappelle qu'elle cite tout le temps Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Énormément d'autres rabbanim. On situe ça au niveau historique à l'an 150-200 de l'ère chrétienne. Et donc, Rabbi Yehuda Hanassi, il a une particularité, c'est qu'il a beaucoup de particularités, mais une qui est très saillante, c'est qu'il fait partie des rares personnes qui avaient de son vivant les honneurs, l'argent, le pouvoir, évidemment, avant tout cela, la Torah, et il était reconnu par tous ses pères comme étant l'autorité suprême du peuple juif, le prince de la Torah, le prince tout court, l'autorité morale, l'autorité politique. En fait, c'est quelque chose dont on rêve beaucoup aujourd'hui, hier, d'avoir un personnage aussi inspirant et aussi reconnu, et qui soit aussi moral et aussi... voilà, donc ça c'est le leader Rabbi Yehuda Hanassi, qui est en fait une réincarnation de Yaakov Avinu, parce que lorsqu'elle interroge pour savoir qu'est-ce qu'elle a dans son ventre, on lui dit Shnegeim, donc deux personnages dans ton ventre. Il y a d'un côté Rabbi Yehuda Hanassi et de l'autre Antoninus, donc le Romain, avec lequel Rabbi Yehuda Hanassi avait des relations extrêmement amicales, même d'admiration, d'ailleurs des deux côtés. La Gemara cite très souvent Antoninus, et finalement dans leurs discussions sont souvent très intéressantes et très enrichissantes, que ce soit les arguments de Rabbi Yehuda Hanassi évidemment, et de Antoninus également. Donc on a une période où Esav et Yaakov, donc le meilleur d'Esav et le meilleur de Yaakov, se rejoignent, se retrouvent et s'apprécient. Et on nous dit Shnegeim et Itner, ce sont deux personnages, parce que Rabbi Yehuda Hanassi était un homme très important, reconnu comme étant très important par tous, et en même temps Antoninus était l'empereur romain. Donc évidemment, ça c'est ce que dit Rashi, ce que rapporte Rashi dans la paracha, et je voulais à cette occasion rappeler les mérites de ce grand maître Rabbi Yehuda Hanassi. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. Simplement, la Gemara nous dit qu'il avait sur sa table l'aimer les plus rares, les plus chers, et au moment de sa mort, il a levé les dix doigts au ciel en disant « Je n'ai pas profité, mon petit doigt n'a même pas profité de ce monde », c'est-à-dire qu'il proposait à ses invités le meilleur, mais pour lui-même, il se suffisait de très peu, et il ne profitait des choses de ce monde que pour servir Hachem. Donc un homme d'une grande kedusha, dans un sens de sainteté, comme Yaakov Avinu qui est appelé le Kadosh, c'est le patriarche qui a la mida de la kedusha, comme le développe le Maharal au début de Parashat Vayetse. Donc cette sainteté, ce côté sacré, consacré totalement à Dieu, qu'avait Yaakov et qu'avait donc aussi Rabbi Yehuda Hanassi, on le retrouve chez lui. On voit aussi chez Rabbi Yehuda Hanassi une dimension presque messianique, c'est-à-dire c'est un homme qui dans une période malheureusement très très rare dans l'histoire juive, on est juste après les dix martyrs, et donc on est après une période terrible où les Romains ont fait des exactions absolument horribles avec tout le monde et avec les sages de la Torah en particulier, et juste après donc il y a cette période, et Rabbi Yehuda Hanassi il comprend que sa période à lui va être très courte, et qu'après, le peuple juif va retrouver les différentes exactions des Romains, vont reprendre à sa mort. Et donc, il dit, il n'y a pas le choix. La Torah orale, comme son nom l'indique, doit rester orale. Mais finalement, il n'y a pas le choix, il faut l'écrire. Et donc, il prend une décision absolument terrible, celle d'écrire la Torah orale, qui finalement, comme le dit Rav Yitzhak Kuttner, il a trouvé un système, un moyen de la garder orale quand même, de l'écrire et de la garder orale, en ayant des Mishnayot souvent pas très explicites. Il faut que la Gemara et d'autres commentateurs donc expliquent la Mishnah. La Mishnah reste assez réduite, très très courte. Elle parle en quelques mots de choses très compliquées et très profondes, donc ça exige des commentaires. Mais pour éviter l'oubli, il a dit « je n'ai pas le choix que de l'écrire ». Donc il a pris une décision qui aurait pu être extrêmement grave, mais qui finalement a été bénie par Hachem, puisque la Mishnah reste et restera pour toujours un des chefs-d'œuvre que les hommes ont pu écrire. Mais comme nous le savons, nous, on pense que la Torah orale a été donnée également au Mont Sinaï. Simplement, il a fallu quelqu'un pour l'écrire et pour mettre exactement ce qu'il fallait, ni plus ni moins. Et ça, c'est l'œuvre de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, je vous rappelle, c'est donc un auteur de Torah chez Baal Peh. Mais comme Yaakov Avinu, je vous le rappelle, est le Av de la Torah, puisque on sait que Avraham, Gmilut Hasadim, c'est la générosité. Yitzhak, Avoda, c'est le korban, le sacrifice. Et Yaakov, c'est la Torah. Donc Torah, Avoda, Gmilut Hasadim, les trois socles. Eh bien, Yaakov a Rabbi Yehuda Hanassi comme descendant, celui qui est l'auteur de la Torah orale. C'est normal, Yaakov, c'est la Torah. Et Rabbi Yehuda Hanassi, c'est l'auteur.
Eh bien, c'était magnifique comme enseignement. Yaakov qui lui émette aussi. Donc, ça correspond bien.
Émette, évidemment. Émette, la Torah, l'émette, évidemment. Tout à fait.
Donc, ça correspond. Rav Guy, je vous remercie et je vous souhaite Shavua Tov. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes Shavua Tov. Shem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy bay. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leivoy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy bay.